Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça permet de régler la voix. Je sais que ma voix est plus basse que celle des autres. Ça va comme ça? On m'entend à peu près bien? Voilà, du coup je m'assois. Ça m'évite aussi parfois, je bouge beaucoup. Ça... Je vous vois un peu, petit peu mieux. Ok. C'est intéressant ce matin, je trouve qu'on a vécu pas mal de choses, certaines choses que je voulais apporter. Donc ça, on va juste revoir certaines choses et puis d'autres, on va essayer d'aller un peu plus loin. Première des choses, c'est vrai que quand on fait, on est en début d'année, on a un désir, pas pour l'instant, ouais, mais moi derrière, ouais, c'est bien comme ça, si jamais je... Merci. Ouais. On se souhaite une bonne année, et ça c'est vraiment génial, et comme ça a déjà été dit et redit ce matin, c'est vraiment une bénédiction qu'on appelle dans la vie des autres. C'est pas juste... des mots. Je crois qu'il y a vraiment un appel à bénir les autres. Et ça, c'est juste magnifique. Et en général aussi, on prend des bonnes résolutions. Il y a plein de bonnes résolutions qu'on va prendre à ce moment-là. Et c'est bien aussi. C'est comme un futur cap, parce qu'on veut se projeter dans le futur. Et c'est une bonne chose. Voilà. Et puis, on passe du 31 au 1er, puis on se rend compte que finalement, la famille est restée la même, et heureusement. Les amis restent sensiblement les mêmes, parfois ça peut changer, il y en a qui partent au loin, le travail est toujours le même, les activités sont plus ou moins similaires, mais il y a quand même cette envie d'un nouveau départ. Et je crois que c'est, on a envie de mettre un peu d'ordre dans ce, parfois, tohu-bohu que sont nos vies. Le tohu-bohu, nos chaos, il y a plein de choses et on désire mettre de l'ordre. Et je crois qu'il y a quelque chose de Dieu dans tout ça, réellement. Et c'est comme quand Dieu a créé dans la création, a mis cet ordre jour après jour. Et on retrouve cette idée de bilan et de fin d'année, de nouveau départ dans le nouvel an juif. Rosh Hashanah, il y a vraiment tout ça qu'on retrouve dedans. Donc c'est intéressant parce que le monde entier vibre quelque part avec ce que Dieu a déjà fait. Il y a quelque part, Dieu a mis ça en nous. C'est un ADN que Dieu a mis. Ce n'est pas juste des traditions du monde, parce que parfois on affecte tout ce qui se passe dans le monde, mais je crois que c'est quelque chose que Dieu a mis dans nos vies. Et c'est comme dans ce nouveau départ, on envoie aussi le bouc avec toutes nos fautes loin de nous parce que ça suffit. Et je crois qu'on veut continuer à inviter Dieu à mettre de l'ordre dans nos tohu-bohu. Mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est de se rappeler aussi que à Rosh Hashanah, on célèbre la création du monde. Il y a vraiment cet ADN de recréation qui est fêté à ce moment-là. Mais parfois, donc, on se rend compte que on n'est peut-être pas si immaculé que ça le lendemain. Il y a des erreurs, des péchés, des pensées qui nous empêchent un peu d'avancer. Et que ce qu'on voudrait être si neuf n'est peut-être pas si neuf que ça. En tout cas, c'est l'idée qu'on s'en fait. On n'a pas toujours toute l'idée de là où on peut aller, mais on a l'idée que certaines pensées viennent nous dicter notre conduite. Et parfois, on peut être pas mal emprisonné par notre passé. Et puis... parce que même si on a des positions, on se dit, mais super, je peux faire ça demain. Quelque part aussi, c'est aussi comme une forme de jugement sur la situation qu'on porte sur notre passé. On se culpabilise, on se condamne, parfois les autres. Et je pourrais juste voir cette année, poser comme fondement cette année un peu que parfois Dieu a des pensées un peu différentes des nôtres, y compris sur nous-mêmes. Dieu a des pensées différentes. Et trop, trop souvent, nos jugements sont tellement, tellement défaillants. Et c'est Isaïe 61, il dit, mais je vais proclamer l'année de grâce. Et dans le mot année de grâce, il y a le mot grâce, c'est le contraire du jugement. Même si après, derrière, il y a une année de vengeance de la part de l'Éternel. Mais c'est Dieu qui fait la vengeance. Nous, on s'occupe de l'année de grâce. Je crois que pas mal connaissent ce verset, où il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas mes voix. L'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Est-ce que vous savez quels sont les versets qui entourent un peu ces passages-là? Juste ce qui introduit ce passage-là. Alors, le texte est dans Ésaïe 55. Ésaïe 55. Alors, ça commence par « Vous tous qui avez soif ». On parle de personnes qui sont dans un... Il y a une soif. Il y a quelque chose qui n'est pas rempli, qui n'est pas satisfait. Il y a un désir d'aller de l'avant. Venez aux eaux. Il y a un chemin. Celui qui n'a pas d'argent, venez acheter. Venez acheter du vin et du lait. Venez. Et puis il y a l'idée de peser de l'argent, de payer quelque chose qui n'a pas vraiment de valeur. Écoutez, et votre âme se délectera de mes succulents. Et dans ce passage, il dit, je vous traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Et il parle qu'il était établi témoin auprès des peuples. Et après, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et on parle de quelqu'un qui a soif, qui ne sait pas où il est, et quatre versets plus loin, il est capable d'appeler les nations. Et les nations qui ne te connaissent pas courront vers toi. À cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Il y a la gloire de l'Éternel qui est manifestée. Et juste après, parce qu'il y a un verset charnière, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Un autre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, un autre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et c'est juste après, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Souvent, notre idée, qu'est-ce qu'on passe? On voit quelqu'un, il y a un péché, ah, condamnation. Une situation ne nous a pas plaît, condamnation. Et Dieu dit juste, non. Je ne me lasse pas de pardonner, et pour bien enfoncer le clou, rappelez-vous que vos pensées et les miennes n'ont rien à voir. Ce verset-là, a été bien mis dans le contexte du pardon. Et du coup, c'est tout un cheminement à refaire avec le pardon. Et après, derrière, il y a la pluie qui descend, il y a cette parole qui fait son effet. Elle remplit complètement ce qu'elle a à faire. Si derrière, on marche dans ce pardon et dans cette grâce, et qu'on accepte que nos pensées sont peut-être différentes de celles du Père, et celles du Père différentes des nôtres. Verset 18, et vous serez conduits avec joie. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse. Et au lieu de l'épine, du cyprès, au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Alléluia. Mais ça commence par des gens qui sont désespérés, qui ont besoin de chercher quelque chose, de trouver Dieu. Que Dieu appelle à chercher les nations. Et à un moment donné, il y a une charnière où on revient à Dieu et on accepte que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Je trouve que c'est une invitation absolument incroyable. Parce que finalement, on dit que Dieu nous invite à pardonner 7 fois, 77 fois, mais là, on ne se lasse pas. Et quand c'est Dieu, c'est infini. Un autre passage... Un petit coup d'œil, juste psaume 94, verset 14 et puis le 17. L'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Verset 17. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté éternelle me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations me réjouissent mon âme. Il y a quelque chose de juste incroyable de se rappeler, et ça a été au cours d'ici ce matin, que Dieu est notre secours. Et que très vite, si Dieu n'était pas mon secours, qu'est-ce qui se passerait? Notre âme, elle n'aurait plus rien à dire. La demeure du silence. Et verset 18, j'aime ce début. Quand je dis, mon pied chancelle. Mon pied peut chanceler à cause du doute, à cause de la tentation, à cause de tellement de raisons. À cause de toutes mes failles. Et c'est quoi qui est mon appui à ce moment-là? La bonté de l'Éternel. C'est celle-là qui me sert d'appui. Quelque part, Dieu dit, ne te condamne même pas toi-même. Ton pied chancelle, tu vas te casser la figure. D'accord. le lieu et le moyen pour revenir à l'Éternel, ta bonté. Dieu n'est pas un Dieu qui veut condamner, mais qui veut vraiment nous faire du bien. Et regardez que au lieu de l'agitation, on aura des réjouissances avec les consolations. Dieu a tant aimé le monde car il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit ait la vie éternelle, mais la suite du verset, c'est parce qu'il n'a pas voulu juger le monde. Il a voulu le sauver. Le jugement appartient à Dieu, pas à nous. Il y a plein de versets comme ça, ou pas dans Matthieu 7, Jésus qui dit ne jugez point. Ça, c'est un truc qui parfois nous... afin que nous ne soyez pas jugés. Alors, l'objectif de ne pas juger, c'est sympa. Je vais être très, très égoïste. C'est de ne pas être jugé soi-même. Parce que quelque part, en amorçant la pompe du jugement, vous l'avez amorcée. Et bien, du coup, vous l'avez mis en route. Et elle est en route pour les autres, mais aussi pour vous. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. C'est quand même des paroles fortes de Jésus. Après, il y a toute l'histoire avec la poutre et voilà. Et nos jugements, parfois même, quand ils veulent être bons, nos opinions sont parfois pas celles de Dieu quand même. Je pourrais revenir sur plein d'autres passages. Jacques 4, où il est parlé de... on va pas relire tout le passage. J'aimerais arriver à des exemples plus concrets. Jacques 4, mais en tout cas le verset 11. Il y a pas mal de choses avant déjà, mais ne parlez pas point mal les uns des autres, frères. Ceux qui parlent mal d'un frère ou qui jugent son frère parlent mal de la loi et jugent la loi. Quel rapport entre le fait de dire des choses plus ou moins sympathiques sur un frère et le fait de juger la loi? Mais en tout cas, le verset nous invite à beaucoup de prudence, parce que si on parle mal de quelqu'un, c'est quelque part on l'a condamné et jugé notre cœur. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Vraiment, je crois que Dieu nous invite à ne pas rentrer dans les jugements. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, que ça ne veut pas dire qu'on doit dire oui, amen à tout, faire des compromis, mais que dans notre cœur, il n'y a pas ce jugement, mais qu'on marche dans la grâce, qu'on marche dans le pardon. Et que les situations ne sont pas toujours complètement blanches ou noires. Il y a des situations qui sont avec beaucoup plus de nuances. Parfois, on peut être très dur et on peut avoir accepté des pensées dures. David est quelqu'un qui aime bien penser en nuances. Il n'y a pas si longtemps ça, il nous rappelait qu'il n'est pas forcément en noir et blanc. Merci David. Parfois, on peut être noir et blanc. Et puis, le temps passe et on se rend compte que peut-être on aurait mieux fait de rester un peu plus nuancé. Et quand je parle de nuance, le noir, c'est l'absence de couleur. Le blanc, c'est toutes les couleurs. Donc, quand je parle de nuance, je ne parle pas de gris. Je parle de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qu'il y a au milieu. Pour ceux qui aiment la peinture. Ok. On va ici se voir deux, trois histoires bibliques ou peut-être des situations qui prêtent à des jugements, qui prêtent à des comment dire, à des prises de position. On se dit, oh, peut-être que, voilà. On peut se montrer à quel point dans notre cœur, même dans l'Église, on peut parfois avoir des pensées un peu bizarres et même contraires à celles de Dieu. Ok. Le premier passage, le premier personnage ou une situation en tout cas. Je crois que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises ici, donc je ne vais pas trop faire long là-dessus. C'est un personnage qui a voulu vivre dans une ville, qui a été condamné par beaucoup. Je n'ai pratiquement jamais entendu une bonne prêche sur ce bonhomme-là. C'était un neveu d'un... C'est Lot. J'étais surpris. Qui sait, alors, pas ceux qui étaient à Josué, mais c'est les autres, de nouveau peut-être, qui sait qui a entendu une bonne opinion de Lot? À part ceux qui étaient à Josué. Voilà. C'est ce grand silence. Pourquoi? Parce que c'est forcément l'homme charnel, il a choisi la vallée. Non, mais c'est n'importe quoi. Or, si vous regardez toute l'histoire, je ne vais pas revenir dessus trop longtemps aujourd'hui, Genèse 19, on parle en long, en large, en 19, et en travers, c'est vraiment un homme spirituel, à tous les niveaux. Proche du cœur du Père, Dieu a du respect pour lui, de l'honneur. Il sauve une ville. Et il avait le droit de choisir la vallée. Et non seulement il avait le droit de choisir la vallée, mais le verset clé pour lui qui confirme cette chose-là, c'est dans 2 Pierre 2, versets 7 et 8, où il est dit que cet homme, ce juste, intercédait jour et nuit pour la ville. La Bible l'appelle juste. Comment est-il possible que dans plein de milieux chrétiens, on ait pu condamner cet homme-là, alors que la Bible l'appelle juste? Ça reste pour moi un mystère. Une autre situation un peu bizarre, on peut faire la peut-être voir un déséquilibre dans une situation. Imaginez-vous un homme qui, un ennemi, on va dire un djihadiste, comme ça actualise les choses. Un ennemi violent et un chef djihadiste, malade. Très malade. Il vient Josué et demande la prière pour la guérison. On prie pour lui ou pas? Il est guéri. Or, l'autre à côté, il n'est pas guéri, dommage. Mais lui, il est guéri. Et imaginons que cet homme, il dit, bon écoute, j'étais juste de voyage, il faut que je retourne là-bas en Syrie. Alors j'ai juste les propos pour les rendre, comment dirais-je, actuels, parce que parfois les choses sont loin, et ce n'est en aucun cas pour dédouaner ou pour minimiser ce qui se passe là-bas, on est bien d'accord. Hein. Je pose juste grand bémol, parce que sinon, on peut dire même, il prend une situation tellement dure, et c'est juste pour la rendre actuelle. Et donc c'est plus facilement, assimilable pour nous aujourd'hui. Puis cet homme il dit, mais écoute, je vais retourner là-bas, et puis... il va falloir que je me procède dans la mosquée. Ça vous va? Qu'est-ce qu'on lui dit? Compliqué, hein? Compliqué. Et puis, il n'est pas venu seul, il y a un de ses serviteurs qui dit... parce que ce monsieur voulait nous bénir, c'est une petite somme d'argent, mais c'est l'argent de la guerre, on n'en veut pas. Et puis le serviteur dit, mais si, le serviteur ici, hein, quelqu'un qui a ouvert la porte, dit, écoute, ouais, t'as qu'à bénir l'église, on a besoin d'argent pour les travaux. Laisse-nous un petit pactole. Donc c'est une histoire que j'ai actualisée, qu'on retrouve dans Un Roi. Un Roi 5. Vous l'avez reconnu? C'est celui qui a la lèpre. C'est Naaman. Ennemi. Il va se baigner dans le fleuve, il est guéri. Et au moment où il retourne vers... il offre une récompense, et puis Élisée dit, non, j'ai pas besoin de ça. Et c'est surprenant comment Dieu peut accepter une situation et va condamner l'autre à côté. Au verset 18, il dit, mais voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. C'est-à-dire, il sait qu'il fait déjà une faute. Quand mon maître rentre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Quand même, tu as été guéri par Dieu. Prends position, fais quelque chose. Et Élisée lui dit, va en paix. Je trouve incroyable. Et je pense que Élisée, quand il dit ça, il parle aussi de la part de Dieu. Moi, personnellement, je pense que j'aurais plutôt condamné le gars. Comme quoi, on peut être plus nuancé dans notre manière de faire et d'approcher les situations et les personnes. Et après, derrière, c'est son serviteur, Géasi. On peut le revoir dans... Je ne veux pas tout lire, mais... il dit, attends, quand même, cette récompense serait sympa, quoi. Il va le voir, il va recevoir de l'argent, c'est dans les versets 23 à 27. Et finalement, il va recevoir les talents d'argent, des habits, tout ça est arrivé, il est content. Et puis il disait, mais d'où c'est que tu viens? Bah voilà, je suis d'un côté, je suis pas allé ni à droite ni à gauche. Mais mon esprit n'était pas absent. Comme quoi l'esprit d'Élisée était bien présent dans toute cette situation-là, l'esprit de Dieu. Et dit, à cause de ça, la lèpre va s'attacher à toi et à ta postérité pour toujours. Alors, nos pensées ne sont pas celles du Père, parfois, ni celles de Dieu. Donc, accepter que Dieu ne regarde pas les choses comme nous. Un autre personnage que j'aimerais qu'on puisse voir, c'est un roi, qui a été un roi, et qui a quelque part perdu sa royauté. Mais j'aimerais qu'on puisse le voir avec un lien un petit peu différent aussi. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler? Saül. Alors en général, Saül est présenté comment ce gars-là? Comment? Plutôt tordu. Hein. Il a fait plein de choses moyennes, on va dire. Il a désobéi à Dieu. Il n'a fait qu'à sa tête. Ok. Je vais essayer de vous emmener quelque part avec Saül. Et je pense qu'une des choses qu'a vécu Saül, c'est cette lutte toujours intérieure de qui il était. Je pense qu'il n'a jamais réglé ce problème-là. Et ça fait, c'est partie des pièges qu'on peut nous avoir, qui je suis. J'ai fait un petit bilan de sa vie sur quelques chapitres rapides. Eh bien, c'est pas si mal que ça. Désolé de vous choquer peut-être. Je dirais, je pourrais être Saül. Désolé de vous rechoquer. Et on va, dans certains domaines, je ne pense pas dans tous. Il est bien évident que je ne vais pas tuer ceux qui sont avec moi ici. Je vais juste parler d'un gars qui au début, je ne demandais rien à personne, au chapitre 9. Il est là et quelque part, Samuel le voit et lui fait entrevoir quelque chose d'incroyable. Et c'est intéressant parce que les choses sont un peu cachées dans ces mots. C'est dans 1 Samuel. Alors il y a presque 20 chapitres sur l'histoire entre Samuel et David. De chapitre 9 au chapitre 31. Et après derrière. Chapitre 9, c'est un peu les prémices. Quand il est là, et puis à un moment donné, Élisée lui dit, mais il y a plein de bonnes choses qui sont préparées pour toi. Il dit, mais pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu me parles de choses qui sont précieuses et gardées pour moi? Il y a quelque chose que notre ami Saül a compris. Chapitre 10, il reçoit l'onction. Il est roi. Rappelez-vous, il n'a pas demandé à être roi. Hein. Et il est roi. Il a été reconnu. Et au verset 9, il reçoit un autre cœur de la part de l'Éternel. Tu dis, et il va vivre des signes et des prodiges. Hein. Honnêtement, c'est aussi une autre remarque que je ferai, c'est que les signes et les prodiges, parfois on les met en question et en doute. Saül en a eu plein dans sa vie. Son cœur, bien qu'il ait dit que son cœur était changé, il ne s'en est pas saisi. Et quelque part, après, il n'a pas entièrement changé sa vie. Et à la fin du chapitre 10, il y a vraiment une véritable confirmation publique de son appel en tant que roi. Chapitre 11, eh ben, on voit une magnifique victoire, alors qu'avant il y avait la guerre. Donc c'est un roi qui a été victorieux. Et en gros, il va être roi pendant presque, un roi officieux, on va dire, pendant presque 2 ans. Et au chapitre 12, on arrive à ce que je appellerais le couronnement, parce que Samuel dépose les fonctions de juge. Donc l'autorité est complètement déposée sur le roi. Et là, on ne dit pas qu'il a fait de mauvaises choses. Il a eu des grandes victoires. Chapitre 13, les problèmes commencent. On rappelle cette histoire où il devait faire la guerre, il a convoqué toute son armée, et pendant une semaine, ils attendent. Et du coup, après, ils attendent quoi ? Samuel. Rappelez-vous, pourquoi je dis que j'aurais pu être Saül ? Parce que si on me fait attendre une semaine dans un bivouac en montagne, il y en a qui sont contents. Ceux qui aiment la montagne et être le plein air, ils sont contents. Les autres, ils vont se dire, mais rappelez-vous, ils ont attendu une semaine. Et la seule chose que pouvait dire Saül, on l'attend. On attend. Le jour où Luc et Manuela nous font attendre pendant une semaine une décision, et qu'on attend quoi ? Mais quelqu'un qui va débarquer un jour pour peut-être faire quelque chose. Une semaine. Mais quelque part, je pense que dans l'excitation, il a pris son appel tellement au sérieux qu'il a dit, mais je ne peux pas laisser mes hommes comme ça. Et il est sorti de son mandat. Son mandat est d'être roi, pas sacrificateur à ce moment-là, pas le prophète. Il est sorti de son mandat. C'est tellement facile parfois de sortir de son mandat. Il était quand même le roi d'Israël. Il avait quand même toute son armée à côté de lui qui attendait. Je suis désolé, je ne sais pas si j'aurais résisté une semaine. Hein. Peut-être qu'au bout de 2 jours, j'aurais fait le sacrifice. Non, mais je reconnais que j'aurais péché. Mais c'est facile de juger ici, on dit on attend. Mais moi, je nuancerais, je ne sais pas si ce gars-là, j'aurais fait mieux que lui. Du coup, peut-être qu'on ne verrait pas ce gars-là. Ouf, je ne serais peut-être pas jugé comme lui. Et puis, il va perdre. Il y a cette attente et juste, alors, cette folie de cette dernière limite où il aurait dû attendre encore quelques heures de plus. Il aurait peut-être dû envoyer quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire. Mais au bout d'une semaine, il faut y aller. L'ennemi est aux portes. Il y a quand même la guerre. Hein. Ce n'est pas non plus juste une question de faire un séminaire de plus ou pas. C'est la guerre. Et là, tu es resté pendant une semaine à rien faire. Bref. Et là, déjà, il y a l'annonce d'un autre roi. Est-ce qu'il a perdu son appel ? Non. Il continue à gouverner. Chapitre 14, il y a une belle et magnifique victoire. Il y a un signe, je crois que de mémoire, je ne sais pas si c'est celui-là, où il y a les tonnerres et la pluie qui arrivent. Il dresse un autel à l'Éternel. C'est pas non plus... c'est le verset 9 du chapitre 10. Merci. Il se passe des choses qui sont bonnes. Et puis, notre chute. Chapitre 15, encore une victoire. C'est pas mal, un roi qui gagne des victoires sur ses adversaires. Et là, cette désobéissance, c'est parce qu'il n'a pas tué le roi adverse. Qu'il n'a gardé certaines richesses. Là, ça, peut-être que je n'aurais pas fait. Bon, de toute façon, j'aurais eu du mal à tuer tous les gens, femmes et enfants d'une tribu. Ça, c'est quelque chose qui serait resté là. J'accepte pour que ça se passe dans le temps. Mais il y a quand même une victoire et derrière une désobéissance. Et il perd définitivement la royauté. C'est quelque chose qui est fini. Et puis, on est dans cette culture de l'honneur. Chapitre 15, verset 30. Saül sait qu'il a tout perdu. Mais il dit une chose à Samuel. J'ai péché. Je te prie, honore-moi. En présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. C'est-à-dire que même dans cette situation-là, il dit honore-moi. Et que va faire Samuel ? Lui qui a annoncé le jugement de Dieu sur la tribu, sur la famille, Et il va aller avec lui. Il va honorer le roi. Dans ma tête, avant, il y a quelques temps, j'aurais dit, fini, terminé. Et quelque part, Dieu commence à me montrer que la situation peut être légèrement plus nuancée. Et qu'on peut honorer même des gens qui font des fautes graves. Pas mal. Samuel a honoré Saül. Et il va continuer à être roi. Je reviens sur un autre sujet maintenant. Étape suivante, chapitre 16. Encore une fois, si vous avez envie de lire tout ça, je vous fais la version condensée. Chapitre 16, David est oint. L'arrêt a été fait et David est oint roi. Et il devient harpiste au service du roi. Puis il y a un trou dans l'histoire. On ne sait plus où est David pendant un moment donné. On sait qu'il est de nouveau dans les champs, qu'il est de nouveau berger. Donc c'est intéressant parce qu'il était berger, oint, harpiste dans la maison du roi, et il est retourné en tant que berger. Et donc dans le chapitre 17, pourquoi on sait ça? Parce qu'à un moment donné, il est dans les champs et son père lui dit, écoute, viens apporter de la nourriture à tes frères, parce qu'il combat contre Goliath. Goliath, l'ennemi qui est venu confronter Israël. L'ennemi que personne n'a voulu défier. Personne. Du plus petit au plus grand dans tout Israël, personne n'a voulu se confronter à lui. Sauf un. David. Question. Est-ce que notre ami le roi a un quelconque part dans cette victoire? Est-ce qu'il a une quelconque part dans cette victoire? Plus fort? Il était d'accord que David combatte. Il donne même son arme. Qui était trop grande pour lui. Ce que je vais vous faire voir ici, c'est que cette victoire, elle est celle de David, mais elle est aussi celle de Saül. Parce que on cherche un héros. On cherche un vaillant guerrier, quelqu'un qui est capable. Et je crois que Saül était un vrai manager d'hommes. Quelqu'un qui était capable de voir les potentiels dans la vie des personnes. C'était pas juste un roi stupide et colérique et qui avait aucune capacité de gouvernement. Je crois que c'est vraiment quelqu'un qui avait une réelle capacité de gouvernement. Et il a fait deux fautes, qu'avec ces deux fautes, il a tout perdu. Si j'ai fait que deux fautes dans mon gouvernement, dans mes situations, je serais bien content. Ceux qui ont fait que deux fautes, levez la main. Ceux qui ont fait plus que deux, levez tous la main. Alors, on va juste voir cette histoire de Goliath. J'aimerais quand même la détailler parce que pour moi, c'était aussi quelque chose que tout d'un coup, je me disais, mais c'est incroyable, j'avais jamais vu ça avant. Effectivement, alors je n'ai pas relu tout le début de l'histoire, hein, mais c'est dans le chapitre 17, à partir du verset 31, il va voir, il parle, et puis on arrive à Saül et on lui dit, mais ok, David il raconte ça, ok, on le fait venir. Et verset 33, ton serviteur ira se battre avec lui. La position de David, c'est pas, je suis loin de l'Éternel, je vais lui mettre la pâtée. Ton serviteur, il commence par se positionner. Il est le serviteur du roi. Le roi Saül. Saül, mais tu ne peux pas aller te battre, tu es encore un enfant. Et lui, c'est un homme de guerre. Et là, donc David explique, écoute, j'ai mis la pâtée aux lions, aux ours. J'ai aussi dit que je ne ferais pas comme David, parce que s'il y avait une brebis et qu'un ours, un lion, va la manger, j'ai dit, écoute, va la manger, je n'irai pas lui arracher de la gueule. Je ne sais pas si j'aurais ce courage-là. Je le saisissais par la gorge, déjà c'est une belle idée, je le frappais, je le tuais. Et c'est ainsi que cet homme-là, cet incirconcis, va finir. Il a insulté l'armée du Dieu vivant. Apparemment, c'est le seul qui a vu ça. Et il continue à affirmer, Dieu qui m'a délivré de l'ours et du lion va aussi me délivrer. Et Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça, parce que Saül dit que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements, plaça le casque, la cuirasse et l'habit. Et David, il dit, moi, c'est bien sympa, mais je ne peux pas marcher avec ça, donc il va s'en débarrasser. Mais quelque part, quand un prophète met son manteau de prophète sur quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'il reçoit, qu'il y a une transmission. Et là, il y a une transmission qui est en train d'être faite. Bien avant l'heure, il y a une transmission qui commence. C'est pas la bonne, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne taille, ça va pas servir. Mais si, à ce moment-là, Saül avait dit, non, ce gamin-là, hors de question. Pourquoi il aurait pu dire ça, Saül ? Pourquoi Saül aurait pu dire, non, hors de question ? Parce qu'il est roi. Mais ça, c'est à cause de la fonction. Mais quelle serait peut-être la motivation qui l'empêcherait d'aller prendre ce genre de situation et dire, oui, vas-y, pas de souci. Ouais, alors on va partir du côté des bonnes idées. Quelles seraient les... Pourquoi il aurait raison pour le protéger ? Ça, c'est une bonne idée, mais c'est pas cela non plus. S'il y a perte de ce jeune homme qui vient de nulle part, c'est toute l'armée qui est découragée. Mais pas simplement. Il y a l'idée, attends, je relis juste le passage au début. Ils étaient normalement assujettis. Et normalement, il y avait. Quelqu'un peut m'aider, s'il a les versets sous les yeux, ça m'aiderait. Verset 9. Ah oui, verset 9, c'est exact. Chapitre 17, verset 9, merci. Donc, s'il peut se battre contre moi et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Super. Mais si je l'emporte, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. C'est pas qu'une histoire de gagner le truc. C'est que toute la nation devient esclave de l'autre. Et attends. En tant que roi, t'as un jeune gars qui vient, que tu as vu peut-être une ou deux fois, qui te dit, ouais, j'y vais quand même. Ouais, ben attends deux secondes, t'es qui, toi ? En tant que roi, tu réagis comment ? Et je pense qu'il y a eu le conseil des généraux, dit, mais attends, Saül, t'es pas un peu fou, là ? C'est un gamin ! À l'autre, il est grand comme 3 pieds 6 têtes et tu à côté de lui, il va pas faire un pli. Et on va devenir esclave. Niet, on n'est pas pour. Du coup, ça change un peu la donne. C'est pas juste le gars qui va tout seul et puis le pauvre roi qui dit oh, ok, bah pourquoi pas, on y va, un peu naïf. Mais il y a vraiment un roi qui prend une position, qui affirme quelque chose et qui, contre toutes les pensées qui disent non, faut pas qu'il y aille. Toi, tu es un par Dieu. Il est capable de voir ça. Tu es capable de le battre. Parce que s'il décide qu'il peut y aller, c'est qu'il voit la capacité qu'il a de gagner. Il ne sait pas comment, mais il pose son sceau sur la situation. Il agit en tant qu'un gouverneur, un royal. Il agit en tant que roi. Et si lui n'avait pas posé son sceau, jamais il l'aurait été. Du coup, la victoire sur le terrain, elle est aussi la sienne. Parce qu'il s'est positionné en tant que gouvernement. Et il a envoyé quelqu'un. Ah. Du coup, ce Saül, qui était considéré comme un gars un petit peu... on se rend compte qu'il y a quelqu'un avec quelques qualités. Il sait gouverner. Il sait voir les hommes. Il a un cœur. Il sait prendre position. Et il a des failles. Il a des failles. Je ne sais pas quelle heure il est, mais il faudra bientôt que j'arrête. Hein? Euh, Donc, il y a vraiment quelque chose là derrière de fort. De ne pas condamner des personnes dans des situations parce que Dieu nous appelle et parce qu'on fait quelques fautes. Parce que ce jugement, tout à l'heure je parlais, quand on juge les autres, on l'amène sur nous. Et quelque part, en l'amenant sur nous, on s'écrase. Et je pense que ce roi a tellement lutté. Est-ce que je suis roi? Est-ce que je ne suis pas roi? Quelle est ma position? Et même après, verset 18, il y a David qui arrive et je t'ai interpellé par une des questions que lui pose le roi. Tu es le fils de qui? Tu es le fils de qui? Et j'ai regardé, c'était déjà dit quelque temps auparavant, parce que quand on l'appelle le harpiste pour qu'il vienne, on dit mais c'est le fils d'Isaïe. Donc quelque part, soit le roi l'a oublié, soit il y a quelque chose de plus grand. Et je pense que d'une certaine manière, David a eu comme un peu un père en Saül. Parce que si vous regardez le chapitre 18, le début, qui c'est qui l'établit à la tête des hommes? Saül. Où c'est qui va prendre la royauté? Côté de Saül, dans la maison royale. Nous, on raccourcit l'histoire parce qu'on lit ces chapitres tellement courtement. Mais il y a quelque chose dans ce... C'est qui ton père? Parce que finalement, le père... C'est bizarre d'ailleurs cette histoire avec le père de David. Quand Samuel arrive, il est où David? Tout seul dans son coin. Hein. Il n'a même pas été appelé. Hein. Il n'est même pas au courant qu'il y a le truc. Ou peut-être qu'il l'a entendu, mais on lui a dit, mais toi, tu viens pas. Hein. T'es pas le bon gars, t'es out. Il y a un conflit. On sait, et plusieurs pensent à s'accordent à dire que peut-être... Bon, je ne sais pas trop quelle est la situation conflictuelle entre les deux, entre le père et le fils, mais en tout cas, il y a quelque chose qui manque dans la paternité, dans le fait que David n'a peut-être pas un père tel qu'il aurait pu l'avoir, ou qu'il a recherché ce père. Quel est ton père? Et il rentre dans la maison. Et juste ce roi-là, qui prend quelqu'un qui vient de nulle part, et qui le met à la tête de ses hommes, tout doucement. Et puis, c'est vrai que ce roi va entendre des paroles de ces femmes ou de ces personnes qui chantent. Saül en a eu 1000 et David en a eu 10 000. Et il va prendre offense. Comme quoi, des mots qui sont parfois véhiculés. Juste des mots. Parce que finalement, il le savait, ça. Il a reconnu. Mais ces mots-là vont heurter sa pensée, vont heurter son cœur. Et tout d'un coup... Je pense que cet appel qui tourne à la vie de Saül d'être un père pour David s'est brisé, a volé en éclats. Et du coup, il a voulu s'en débarrasser. Mais même là-dedans, vous manquerez que David, à aucun moment, n'a remis en cause l'autorité royale qui a été posée sur le roi. À aucun moment. Nous ne le faisons pas, nous. Parce que si on met en cause son autorité royale, alors ça veut dire qu'on remet en cause l'autorité de manière générale. Et ça va appeler des... Celui qui remet en cause l'autorité, ben quelque part ici, la branche sur laquelle lui-même il veut être assis un jour, avoir de l'autorité, ça ne marche pas. Je ne sais pas si j'ai pu vous amener à ouvrir votre champ de vision, mais vous voyez qu'il y a des situations bibliques qui sont, même dans la Bible, qui ne sont peut-être pas aussi... blanche et noire, mais qu'il y a des nuances. Moi, j'apprends beaucoup au travers de ça. Et d'essayer d'entrevoir les gens, pas comme en catégorie, mais voir les nuances. Et ce ne sera peut-être pas des bonnes choses, mais accompagnez-les. On va essayer de les honorer, comme David a continué à honorer Saül. Samuel a honoré Saül, malgré ses failles, malgré le fait qu'il a reçu un rejet de la part de Dieu. La question de l'honneur est primordiale dans cette histoire-là. Et notre maison doit être une maison de l'honneur. Parce que l'honneur est ce qu'est le jugement. L'honneur va mettre au loin les condamnations, les culpabilisations, mais va élever les personnes. Et même si dans une situation on ne comprend pas, et même si dans certaines situations on a envie de juger, méfions-nous. Moi je crois que le jugement, c'est quelque part l'esprit du monde qui nous appelle à cataloguer les choses. D'ailleurs, avec avoir les médias, on jette tout le monde et tout aux pâtures pour un oui ou pour un non. C'est juste terrible. Tout le monde devient les experts de tout sur Internet. Même ceux qui ne savent rien deviennent des experts parce qu'ils ont écrit un truc. Je suis un expert. Et parfois, c'est affolant. Et je crois que c'est aussi le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelque part, quand on a goûté à ce fruit-là, c'est quoi ? C'est bien, c'est mal. On essaie de juger. Goûtons à l'autre arbre, l'arbre de la vie, dans lequel il y a de l'amour, il y a de l'honneur, il y a du respect, et il n'y a pas de condamnation et pas de jugement. Ça ne veut pas dire qu'on a des enfants, et peut-être qu'il y aura un autre message un autre jour qui dit qu'il faut faire attention et qui nous adresse à nous positionner parfois. Ce n'est pas le message aujourd'hui, donc j'étais assez partial dans ce que j'ai amené, désolé. Mais je pense que c'est important de commencer à voir les autres avec un regard différent. Parce que ce regard sur les autres va changer parfois aussi mon regard sur moi-même.